Ok. Est-ce que vous êtes prêts à lire avec moi et découvrir la parole de Dieu ce matin? Ok, alors je ne vous ai pas envoyé, messieurs, les versets, mais principalement ça va être Luc chapitre 19, versets 1 à 11. Vous pouvez regarder avec moi ceux qui ont amené leur Bible. Luc chapitre 19, versets 1 à 11, pour ceux qui ne sont pas habitués aux églises protestantes, évangéliques notamment, eh bien, on ouvre la Bible. On ouvre la Bible en français et on la découvre par soi-même. Et on y réfléchit, on la médite et on se pose la question, mais qu'est-ce que ça m'apporte ? C'est mon père qui m'appelle et c'est très très inhabituel. Et j'ai presque envie de décrocher le téléphone pour qu'il m'écoute prêcher. Je l'ai dit trop tard. La prochaine fois, je lui ferai le coup. Ne bouge pas. Il écoutera le message, c'est pas un problème. Luc chapitre 19, verset 1. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Oh, il est allé loger chez un homme pécheur !» Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Alors je vous dis, quand on lit la Bible, il est bon de passer du temps, pas la lire en quatrième vitesse comme on lit le journal, mais il est bon d'essayer de se figurer les choses, de se les imaginer. Dieu nous a donné cette capacité extraordinaire qui est l'imagination, la possibilité de voir, de penser, de se projeter. Et j'ai carrément plus de micro. Et merci. Et de penser à ce que pourraient être les sons, les odeurs, de ce que pourraient être les couleurs, de également ce que pourraient être les gens. Qui sont les gens dont il s'agit ici ? Et j'aime faire cet exercice parce qu'en faisant cet exercice, ça nous rend plus attentifs aux mots qui sont écrits en disant « Tiens, je n'avais jamais fait attention à ça ». Alors c'est un petit exercice qu'on va faire ensemble ce matin. Jésus était entré dans Jéricho, il traversait la ville et la Bible nous dit qu'il y avait une foule qui était là. Pourquoi ? Notamment parce que lorsque vous remontez au chapitre 18, juste avant, on voit que sur le chemin de Jéricho, Jésus a guéri un aveugle. Et pas simplement un aveugle, mais on connaît le nom de cet aveugle. Ce n'est pas le cas de toutes les guérisons que Jésus a faites. Celui-ci s'appelait Bartimée. Ce qui me fait dire qu'au moment où Luc écrit son évangile, Bartimée, le fait de citer le nom de l'aveugle, doit avoir une importance pour ceux qui vont le lire. Souvenez-vous que l'évangile de Luc est un reportage, un documentaire. Et donc, il faut croire que ce Bartimée, soit sa guérison avait ensuite été connue à bien des endroits, et Luc dit oui, c'est exact, c'est ce Bartimée-là qui a été guéri, ou alors c'était peut-être quelqu'un de connu, ce Bartimée. Quoi qu'il en soit, donc, Jésus rentre dans Jéricho et il y a la foule. Vous avez déjà vu le concert de Johnny Hallyday ? Jamais ? À la télévision, au moins ? Vous voyez ce que ça donne ? Jésus, il est obligé d'avoir Pierre et les autres qui sont en train de faire les gardes du corps pour éviter qu'il soit écrasé, tout le monde se jette sur lui. Bien, il est comme ça dans Jéricho. Jéricho, je vous expliquerai pourquoi je le sais après, c'est pas un village, c'est pas Saint-Paul-de-Vence. Hein. Jéricho, c'est une ville, il y a du commerce à l'intérieur. Et c'est des fois, on se représente les villes antiques comme si c'était, comme elles sont aujourd'hui parfois, c'est-à-dire un désert avec quelques ruines qui traînent, Et puis les gens marchent très lentement. Et puis il y a trois touristes belges qui... Enfin, belges, je ne sais pas pourquoi belges, mais trois touristes russes, ou ce que vous voulez, qui, des Suisses qui font des photographies. Et puis voilà, mais... Non, mais sauf que c'était une ville très active. Et il y avait du commerce. Comment je le sais ? On nous dit ensuite que Zachée était publicain. Et vous verrez ce que sont les publicains, on va en parler un petit peu plus en détail, mais notamment, ce sont ceux qui, pour le compte des Romains, pas seulement prélevaient les impôts sur les habitants de Jéricho, prélevaient les taxes et les droits de douane. Il y a de la marchandise qui rentre et de la marchandise qui sort à Jéricho. Donc c'est une ville très active, et Jésus arrive au beau milieu de cette ville, un peu l'avenue Jean-Médecin, vous voyez, et donc ça se presse de tous les côtés. Et il y a un homme riche. Dans d'autres versions, il nous a dit un homme très riche, qui s'appelle Zachée, et qui est le chef des publicains. Alors j'ai fait une petite recherche sur les publicains, et c'est assez intéressant ce que j'ai découvert. Les publicains, ils n'ont pas commencé à Jéricho en l'an 33. Les publicains, on en a des traces à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ. Publicain, ça veut dire, c'est une charge qui est confiée par d'abord la République, puis l'Empire romain, à certaines personnes qui peuvent acheter cette charge pendant 5 ans. Et ça coûte très cher. Elle est vendue aux enchères, cette charge. Donc c'est celui qui a plus d'argent qui la remporte. Il faut croire que ça rapporte. Si les gens sont prêts à dépenser autant pour pouvoir avoir ce droit-là pendant 5 ans. Quel est ce droit ? Eh bien, en fait, c'est le devoir, je dirais, de prélever les impôts et les droits de douane pour l'Empire romain. Empire romain qui, et c'était le cas en Israël, était une puissance occupante. Imaginez que les nazis aient gagné la guerre et que Zachée avait acheté aux nazis cette charge de récupérer les impôts et les droits de douane pour eux. Autant vous dire qu'en Israël, pays occupé, il n'était pas très bien vu. D'accord ? Également, ce qu'il faut savoir, c'est que les publicains étaient des gens qui avaient beaucoup d'argent parce qu'ils devaient faire l'avance à l'Empire romain des sommes qu'ils étaient censés récupérer. Donc il fallait qu'ils aient la trésorerie pour ça. Bien, vous allez me dire, mais comment gagnaient-ils de l'argent ? Bon, ben, c'est très simple. Ils avaient encore suffisamment d'argent pour prêter, parce que c'était également des banquiers, c'était des prêteurs, et récolter des intérêts sur l'argent qu'ils prêtaient, à des taux qui avoisinaient parfois les 45%. Donc c'était des usuriers. Deuxième raison pour laquelle ils étaient extrêmement mal vus de la population, qui, elle, ben non seulement devait payer les impôts à ces gens-là pour le compte de l'Empire romain, et vous imaginez avec quelle férocité, je dirais, ils récupéraient leur dû sur le peuple, parce qu'ils avaient fait l'avance à l'occupant. Mais en plus, eh bien, lorsque vous aviez besoin d'argent, il n'y avait pas le choix, c'est eux qui le détenaient. Donc il fallait aller le leur emprunter, je vous dis, à 45%. À des taux qui pouvaient aller jusqu'à 45%. Bien. Il faut savoir que les publicains n'agissaient pas seuls, ils étaient souvent regroupés en société civile. Ce qu'on appelait la SCP à l'époque, la Société Civile des Publicains. Je suis assez fier de ma blague de juriste que vous pouvez oublier, c'est très particulier l'humour d'elle. Et Zachée n'était pas publicain, il était chef des publicains de cet endroit-là. Ce qui veut dire qu'il avait des gens qui travaillaient pour lui. Et en général, le patron gagne mieux que les employés. Voilà le contexte. Voilà qui était cet homme. Bien. Et il nous dit également un détail qui a son importance. Il était de petite taille. Alors, je ne vais pas me livrer à une critique des gens de petite taille. Mais j'ai remarqué. Et ça n'est pas un stéréotype. Ou peut-être que si, mais j'ai remarqué. Que souvent, les gens de petite taille sont des gens plus... un peu plus nerveux, un peu plus, vous voyez, un peu plus pugnace, vous voyez, un peu plus coriace. Ils en veulent. Et j'ai une théorie complètement débile sur le sujet, qui consiste à dire que comme ils s'en ont marre de se prendre des calbottes dans la cour de récré, etc., etc., ils sont obligés de se bagarrer pour s'en sortir. Et ça ne m'étonne pas si, quand vous regardez les grands, entre guillemets, hommes de l'histoire, ils sont souvent petits. Moi, j'ai pas le droit de parler politique ni de citer de nom. D'accord ? Sarkozy était petit, Napoléon était petit, etc. Donc, peu importe. Bien. Pour le meilleur et pour le pire, je dirais. Mais. mon meilleur ami, dont je ne citerai pas le nom, dépasse de peu le mètre 60. Bien. Et donc, peut-être que je fantasme, peut-être que je vois juste, mais je me dis, c'est pas pour rien si cet homme petit est arrivé là où il est arrivé dans la vie. Laissez libre cours à votre imagination, et après le Saint-Esprit vous dira si vous êtes dans le vrai ou pas. Mais cet homme de petite taille est arrivé à la force du poignet à devenir chef des publicains de la ville dans laquelle il était. Et j'en viens même à me demander si ça n'est pas une revanche qu'il a prise sur la vie et sur les gens dont aujourd'hui il prélève les impôts, mais qui hier étaient ceux qui lui mettaient des claques dans la cour de récré. Ça vaut ce que ça vaut. Toujours est-il que Zachée, en tant que Jésus est en train d'arriver. Et la Bible nous dit, au verset 4, d'abord au verset 2, il cherchait à voir qui était Jésus. Manifestement, il en avait entendu parler. Et non seulement il cherchait à voir qui était Jésus, mais il courut en avant, ce qui n'est pas dans l'habitude des gens qui ont un statut social, je dirais. On n'est pas habitué à transpirer, on n'est pas habitué à courir, à jouer des coups de « laissez-moi passer, laissez-moi !» En général, on s'attend plutôt à ce que la foule s'écarte sur son chemin. Mais lui, il courut en avant et monta sur un sycomore, c'est-à-dire un figuier sauvage, grosso modo, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. C'est vraiment une attitude très inhabituelle pour quelqu'un de son rang, ou de son, je dirais, de son niveau social. Ce qui me fait dire, c'était plus que de la curiosité. Quelque part, il y avait un désir dans cet homme-là. Je pense qu'il avait dû entendre des choses à propos de Jésus, non seulement des guérisons qu'il faisait, mais surtout de l'amour qu'il manifestait. Et cet homme-là, son attitude, elle est bizarre. C'est pas naturel, si vous voulez, d'agir comme cela. Lorsque Jésus fut arrivé là, il leva les yeux et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. » Jésus n'a pas dit « J'aimerais demeurer dans ta maison. » Jésus a dit « Il faut que je demeure chez toi. » Or, que savons-nous sur Jésus? C'est qu'il dit « Je ne fais que ce que je vois le Père faire, je ne dis que ce que je vois le Père dire. » On sait que c'est quelqu'un qui passait beaucoup de temps en prière également, vraisemblablement tôt le matin, quand il faisait encore nuit, vraisemblablement pour entendre la voix du Saint-Esprit sur ce que devrait être sa journée ou les prochaines journées. Donc, lorsqu'il dit « Il faut que je demeure chez toi », moi je suis convaincu que c'est parce qu'il avait la conviction du Saint-Esprit dans son cœur. Tu vas aller à Jéricho et il y a un homme, je ne sais pas s'il connaissait son nom, pas son nom, peut-être que les gens ont dit « Oh Zachée, qu'est-ce que tu fais là-haut? Oh, qu'est-ce que tu fais ?» Il s'appelle Zachée, mais c'est lui. Le Saint-Esprit m'avait dit que je croiserais peut-être un homme dans un arbre. Ou peut-être qu'il lui avait donné le nom de la personne. Mais il a dit « Il faut que je demeure chez toi ce soir. » Zachée se hâta de descendre. Donc vous imaginez la scène, hein, il y a presque un personnage de cirque, quoi, un trapéziste. Quoi. Il se hâta de descendre, il sauta de son figuier. Donc je pense qu'il devait avoir de la poussière sur lui, peut-être du suc de figuier sur ses vêtements, etc., etc. Il se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si j'étais à sa place, pour montrer à tous ma puissance, s'il y a une célébrité qui arrive en ville, je l'inviterai à manger à la maison. Or là, c'est pas lui qui a invité. C'est le Seigneur qui a dit « Tu vas recevoir. » Bien. Voyant cela, tous murmuraient. Ben oui, il n'y en a pas un qui coupait. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, il y ait eu des exemptions d'impôts ou des gens qui n'étaient pas imposables. Tu respires, à mon avis, tu dois payer ton dû, quel qu'il soit. Et il disait, oh, il est allé loger chez un homme pécheur. Pourquoi pécheur? D'abord parce que la Torah interdit de prêter avec intérêt à ses co-religionnaires. Ensuite, parce que, on ne connaît pas le style de vie de Zachée, mais quand il y a de l'argent et quand il y a du pouvoir, en général, ça va de pair avec un style de vie. Et donc, vous imaginez, il faut se mettre deux secondes à la place des gens, hein. Imaginons que Jésus vienne aujourd'hui, que nous soyons sous occupation, et que Jésus dise « Hey, Heinrich, descends de ton arbre, ce soir il faut que j'aille dormir chez toi. » Le chef de la Gestapo, peut-être. Ou le plus gros collabo du quartier. Et il descend avec joie, et il ouvre sa porte avec joie, et il ouvre sa porte à Jésus avec joie, et il rentre. Vous imaginez que les gens ne savaient plus sur quel pied danser avec Jésus. Bien. Verset 8, « Mais Zachée se tenant devant le Seigneur. » Là encore, c'est une interprétation de ma part. Mais je pense, que ce n'est pas immédiat. C'est-à-dire qu'il s'est passé un laps de temps, de discussion peut-être, entre Jésus et Zachée, avant que Zachée ne parvienne à cette décision qui est la sienne. La Bible ne le dit pas, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Quoi qu'il en soit, on va dire que cette rencontre avec Jésus a eu un résultat chez cet homme. Quel est le résultat ? Seigneur, voilà. On pourrait paraphraser en disant, j'ai pris cette décision. Je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens. Vous imaginez ce que ça représente ? Pour un homme tel que lui ? D'abord en somme, en montant. Mais également, et c'est là où je voulais en venir, la situation que cet homme-là s'est construite, à la force du poignet, peut-être par le biais de magoum, de compromission, répondait forcément à un état de son cœur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Il n'est pas arrivé là où il est arrivé par hasard. Il ne s'est pas construit cette fortune, cette situation de, je dirais, ce caractère intouchable, dans le sens, pas intouchable comme en Inde, hein, le bas de la caste, le haut de la caste. D'accord ? Et Zachée, une fois encore, peut-être que je fais des liens là où il n'y en a pas, mais cette histoire de petite taille m'interpelle. Pourquoi la Bible en parle-t-elle ? S'il s'est construit tout ça, vous savez, ça me rappelle cette parabole où Jésus dit qu'il y avait un homme dont les terres avaient beaucoup rapporté, et il se faisait du mouron, cet homme-là, en disant « La nouvelle moisson arrive, c'était un homme très riche, mais où est-ce que je vais la mettre ? J'ai plus de place. » Ah, je sais ce que je vais faire. Plutôt que de dire, vous imaginez ce que c'est quand vous avez déjà plusieurs greniers qui sont remplis, vous avez X années d'avance, hein, de budget devant vous, de trésorerie. Plutôt que de dire, bon, je crois que ça va là, maintenant je... Non, 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 ah, je sais, je vais abattre mes greniers, je vais en construire encore plus grand, et je vais... C'est quoi ? C'est la peur de manquer. C'est le truc de dire... Et il dit en plus dans cette parabole-là, et ensuite je dirai à mon âme, ça y est mon âme. Tu as de grands biens, tu es tranquille pour un certain temps, tu vas pouvoir boire et te réjouir. Et c'était déjà le cas auparavant, ce qui veut dire que c'est une fuite en avant, ça n'est jamais assez cette histoire-là. Mais ce que recherchait l'homme de cette parabole, finalement c'est quoi ? Une forme de sécurité. Le fait d'être à l'abri des problèmes. Mais Zachée, pour moi, il est complètement dans ce modèle-là. Et il est capable, après une rencontre avec Jésus, de dire « Je vais prendre la moitié de mon argent et je donne tout aux pauvres. » Il ne dit pas d'ailleurs « de mon argent », il dit « la moitié de mes biens ». Et les biens, ça inclut pas que l'argent. Ça inclut les voitures, ça inclut les maisons, ça inclut le cheptel, ça inclut les bijoux, ça inclut tout ça. Je prends la moitié, je donne tout aux pauvres. Et il continue en disant « Et si j'ai fait du tort à quelqu'un ?» Et je pense que tout le monde va dire « Ouais, ben justement !» Il y a tout Jéricho qui a dû lever la main. C'était le chef des publicains. Je lui rends le quadruple. Que dit Jésus ? Il dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc Zachée était perdu. Des critères selon les critères de Dieu, selon les critères du Christ, Zachée était un homme perdu. Et par une rencontre avec Jésus, il est capable d'avoir cette attitude. Et je pose toujours la même question, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Zachée était un homme de petite taille qui était devenu riche ? Pourquoi est-ce que Zachée est capable de se ridiculiser au point de monter dans un arbre, de sauter hein, comme un singe ensuite devant le Seigneur, de le faire venir à la maison, de donner la moitié de son argent aux pauvres, de rendre le quadruple de ce qu'il a pu extorquer ou voler, d'accord ? La Bible nous dit que si j'ai fait du tort, en grec, la notion c'est si j'ai... Attends, c'est quoi ? Si j'ai extorqué, il y a une double notion, j'ai oublié la deuxième. Mais l'idée, c'est que c'est du racket, quoi. C'est vraiment du racket. Et c'est ce que cet homme-là faisait. Parce qu'il y avait de ça aussi. Il y avait de ça aussi. C'était, bon, je viens payer mes impôts. Très bien. 1500. Quoi ? Mais c'était 1000 l'année dernière. Eh oui, ça a augmenté. Non mais attends, sur quelle base ça a augmenté ? Bien, messieurs les soldats, on a un récalcitrant là. Non, ça va. C'était ça aussi le truc. Sauf que Rome, l'argent, il l'avait déjà touché. Donc l'extorsion, elle était pour sa poche à lui. Ou pour la SCP dans laquelle il travaillait. D'accord ? Et là où je veux en venir, parce qu'on pourrait y voir une histoire d'argent, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de cœur humain. On a un exemple ici d'un homme dont on a compris quelle était vraisemblablement la disposition de cœur. Peut-être qu'il avait manqué quand il était gosse. Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'avec de l'argent, on était tranquille. Peut-être que. En tout cas, sa rencontre avec le Seigneur change complètement sa façon de penser, son paradigme, son état de cœur. Ses peurs se sont envolées. Vous savez ce que la Bible nous dit ? Dans l'une des épîtres de Jean, nous dit « L'amour parfait chasse la peur. » Et moi, quand je regarde ce personnage, il y a le mot « peur » en néon qui s'allume de mille feux, dicté par la peur. La peur. Quand il a rencontré l'amour véritable, sa peur a disparu. Et je pense qu'il s'est rendu compte à ce moment-là, mais je suis complètement fou d'avoir agi comme ça. Bien. Dans Luc au chapitre 18, quand vous regardez au début du chapitre, c'est assez intéressant parce que Jésus, verset 9, avait donné, avant d'arriver à Jéricho, une parabole aux gens qui étaient là, qui le suivaient, ses disciples. On pense souvent que Jésus n'avait que 12 disciples qui le suivaient, mais c'est faux. Jésus avait beaucoup plus de disciples que cela. Il en faisait à divers endroits, mais il y a des gens qui abandonnaient les choses et qui le suivaient. Et il dit ici, cette parabole en vue de certaines personnes, donc Luc 18, 9, qui se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes, dit-il, montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, donc le parti le plus strict à l'époque du judaïsme, souvent habillé en noir, d'accord, et qui était, la police de la pensée de l'époque. Et l'autre était un publicain. Et maintenant, vous savez ce que c'est, un publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Je pense qu'il ne priait pas trop fort, parce qu'il savait que le publicain d'à côté avait du pouvoir et de l'argent, et que s'il l'entendait dire ce qu'il allait dire, ça allait peut-être mal se passer pour lui. Il disait en lui-même, « Oh Dieu, je te rends grâce, non mais écoutez la prière, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Extraordinaire. « Qui sont ravisseurs, injuste, adultère, ou même comme ce publicain là-bas. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Enfin, vous voyez le tableau, quoi. Gardez en tête cette façon de penser, parce que je vais vous montrer quelque chose après. Le publicain, se tenant à distance, lui, il n'osait même pas s'approcher. Vous savez qu'il y a des degrés de sainteté dans le temple. Il n'osait même pas s'approcher. Il se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. On parle de quoi ? On parle d'un homme, un publicain, qui avait un rang social, beaucoup d'argent, qui n'a pas fait que des copains, mais en tout cas, il est arrivé là où il voulait arriver. Et intérieurement, c'est intéressant, on voit ce qui se passe dans l'âme d'un homme comme celui-là. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine. En disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, parce que je suis un pécheur. Et Jésus dit quelque chose d'incroyable. Il dit, je vous le dis, celui-ci, c'est-à-dire le publicain, descendit dans sa maison, justifié, c'est-à-dire pardonné, blanchi par Dieu, plutôt que l'autre, qui lui n'a reçu aucun pardon, aucune justification. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et j'ai plus le verset en tête, mais je relisais ce matin qu'il y a un autre passage où Jésus dit carrément aux pharisiens, les publicains et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Donc Jésus rentre chez les Zachée après avoir dit à ses disciples cette parabole. C'est-à-dire que quelques heures, jours, je ne sais pas, avant, il leur parle de l'attitude de cœur d'un publicain. Je pense que le Saint-Esprit fait bien les choses. Il a dû prévenir un petit peu à l'avance les disciples pour ne pas qu'il ait la moitié de sa communauté qui le plaque sur le champ en voyant qu'il allait rentrer chez les Zachée. Donc quelques jours avant, le Saint-Esprit donne une parabole au Seigneur en disant « Voilà quel est le cœur de Dieu et voilà quel est le cœur de l'homme. » Le cœur d'un Dieu qui justifie, qui pardonne, qui fait grâce. Mais encore faut-il que le cœur de l'homme reconnaisse qu'il a besoin de ça. Mais mes amis, ne nous fions pas aux apparences. Dans cette parabole, c'est pas celui qui allait à l'église tous les dimanches qui était pieux, qui reconnaissait qu'il avait besoin de Dieu, qui avait une relation avec son Dieu. Celui qui a pu établir le contact avec Dieu et bénéficier de sa grâce et de sa miséricorde, c'est celui qui extérieurement n'en avait pas l'air. Et c'est exactement ce qui s'est passé quelques jours plus tard quand Jésus rentre à Jéricho. Bien. Pourquoi je vous dis ça? D'abord parce qu'on comprend quel est le cœur du Seigneur pour l'humanité, qu'on comprend également que le cœur de l'homme n'est pas ce qui transparaît à travers son profil Facebook ou ses vêtements ou sa voiture. Et maintenant la question c'est « et moi dans tout ça ?» Vous relirez à la maison Jonas. C'est vraiment intéressant. Je suis en train de redécouvrir des choses dans Jonas. Jusqu'à présent, pour moi, c'était le conte de Jonas avec le gros poisson qui mange le monsieur, qui le recrache ensuite sur la rive, et puis c'est ce que je raconte à ma fille. Sauf que Jonas... Avant ça, il faut que je vous explique quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu, alors les responsables de l'église ont vu cette vidéo il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Il y a eu deux vidéos qu'on a vues. Une vidéo qui a circulé, c'était une interview d'un journaliste français, je ne sais plus quel était le nom de l'émission, mais qui interviewait, il y avait quatre hommes en face de lui, et lorsqu'il dit qu'il a quatre hommes en face de lui, il y en a un barbu qui dit ah, « Excusez-moi, je ne sais pas ce qui vous permet de dire ça. » Quelqu'un a vu cette vidéo? D'accord. Je ne sais pas ce qui vous permet de dire ça. Alors le journaliste est un peu interloqué, et il dit « Pourquoi vous n'êtes pas un homme ?»« Non, je suis un homme. » « Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ?»« Ben, votre apparence, monsieur. Vous avez une barbe, vous êtes un homme. » D'accord. Ben bon, et alors vous êtes... Le gars insiste, quoi. Non, mais il ne faut pas confondre... Identité de genre et expression de genre. Ah bon, mais alors comment vous définissez Je n'ose même plus dire monsieur, quoi. Comment vous définissez? Je suis non-binaire. Cette vidéo-là a fait écho, je dirais, à certaines choses que j'avais commencé à lire dans le Nouvel Obs, dans le Point, etc., sur ce qui se passe, mais pas dans des ruelles obscures, dans certains quartiers de Paris, ce qui se passe à Sciences Po, par exemple. Ce qui se passe dans certains colloques où vous avez carrément des gens qui interviennent et qui interrompent brutalement le colloque parce que le colloque dit qu'il faut savoir distinguer aujourd'hui les hommes des femmes, qu'il faut s'opposer à la théorie du genre, ce genre de choses. Bon, premier exemple, assez choquant, le journaliste ne sait plus trop quoi faire, il présente ses excuses. Désolé si je vous ai offensé. Deuxième exemple, 14 juillet à l'Élysée, invitation du couple Macron. Vous avez sur le parvis de l'Élysée, je ne sais pas si vous l'avez vu, une fête qui a eu lieu. Cette fête étant animée par un DJ, contre qui j'ai rien à titre personnel, mais qui revendique, de manière vulgaire d'ailleurs, son homosexualité, le fait qu'il soit noir, bon, ce qui est son droit le plus absolu de revendiquer, c'était sur son t-shirt, et qui mixait donc de la musique électronique sur laquelle se déhanchait, déambulait, je ne sais pas comment dire ça, parce que ce n'est pas de la danse, 5-6 danseurs, danseuses qui manifestement sont tous transgenres. Et ensuite le couple Macron qui pose aux côtés de ces personnes. J'ai appris par la suite qu'il y avait des ministres qui étaient là, qui étaient invités, d'anciens ministres, etc., etc. Bien. Et donc, ma première réaction est de dire il faut que le Seigneur revienne vite, il faut qu'on en termine avec tout ça. Mais sous-entendu, qu'on les brûle, que ça disparaisse. Allez, on fait table rase et on repart sur quelque chose de propre. Parce que ça a atteint un niveau où on ne peut plus faire marche en arrière. Voilà, quelle est ma première réaction. Réaction charnelle, je dirais. Réaction spontanée. Et en étudiant le message que je vous prêche aujourd'hui, le Seigneur m'a dit « Retourne à Jonas et à Ninive ». dont la Bible nous dit que c'était une très grande ville pour l'époque, très grande ville. Et avec un état de corruption, au sens large, hein, un état de péché, un état de dépravation, qui était le must de ce qu'on pouvait faire à l'époque. Et Dieu a dit à Jonas, tu vas aller et tu vas leur dire de se repentir. Et quelle a été la première réaction de Jonas ? C'est de prendre un bateau et de partir dans l'autre sens. Et quand Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Jonas n'arrivait pas à se résoudre à ce que Dieu soit prêt à effacer l'ardoise. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que ce n'est pas uniquement effacer l'ardoise des pécheurs, c'est qu'il y a un changement de cœur qui prend place chez ces gens-là. Pour la faire courte, il finit par aller à Ninive, et Ninive, à l'échelle municipale, j'allais dire, je ne vais pas dire nationale, mais ou quoi que, se repent, et change complètement d'attitude. Et je repensais à ça, et je me disais, mais finalement l'attitude que les gens ont eue, ou le pharisien dans la parabole, a eue avec ce publicain, j'ai la même. Quand je vois quelqu'un qui est dans cet état-là, quelle est mon attitude première? Est-ce que c'est de dire, il faut que je parle du Seigneur à cette personne? Parce que si cette personne en est arrivée à cet état-là, vous comprenez que pour moi, il n'y a pas de distinction entre un Zachée qui est arrivé là où il est arrivé, et l'un de ceux qui se traînaient sur le perron de l'Élysée, qui en sont arrivés là où ils en sont arrivés. C'est la traduction de ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des gens? Il y a de la souffrance, il y a du manque, il y a un manque d'amour, de la confusion vraisemblablement. Je serais ravi de pouvoir avoir le profil familial, scolaire, psychologique de ces gens-là. Il y a vraisemblablement une maison où ça ne se passait pas comme ça aurait dû se passer. Et plutôt que de regarder les actes des gens en disant « Ah, mais comment tu peux faire ça ?» Est-ce qu'on comprend que leurs actes sont la résultante de leur façon de penser, de ce qu'il y a dans leur cœur? J'avais lu il y a des années de ça. Il y avait parfois dans les églises des jeunes qui rentraient, les cheveux en bleu, en rouge, un peu à punk, quoi. Et il y a quelqu'un qui avait dit très justement, parce que vous imaginez, quand tu es dans une église bien guindée et qu'il y a le blouson en cuir clouté qui arrive avec les cheveux en pique, allez, qui mâche son chewing-gum et qui fait du bruit et qui met les pieds sur les chaises. Donc, première action, c'est quoi? Jean-Marc, c'est quoi ta première réaction en tant que monsieur sécurité? Excusez-moi. On peut se parler dehors 30 secondes? Parce qu'il ne faut pas déranger. Il ne faut pas bousculer. Alors oui, je suis pour qu'il y ait un ordre dans les choses, mais quelle est notre attitude de cœur? Et donc j'avais entendu cette chose-là en disant, oui, en fait, quelqu'un d'autre m'avait donné cette phrase et je trouvais que c'était la bonne façon de voir les choses. Il avait dit, mais tout ça n'est rien d'autre qu'un gros panneau lumineux avec écrit « à l'aide ». J'ai besoin de votre attention, de l'attention que je n'arrive pas à obtenir des gens dont j'en ai besoin. Que quelqu'un me regarde. Et si c'est par la provocation que je dois pouvoir parler avec les autres, que je peux amorcer une discussion avec les autres, eh bien, ce sera par la provocation, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Et vraiment, ça me fait réfléchir. Cette histoire de comme quoi, avec un type qui saute d'un arbre, on peut... Cette histoire me fait réfléchir en me disant, une rencontre avec Jésus, et c'est tout le schéma de cet homme qui a été révolutionné, au sens propre du terme, c'est-à-dire retourné à l'initial. Donc vous relirez Jonas, mais attention à la haine, je dirais, parce que ça peut être de la haine à un moment donné. Ce sentiment qui pousse à vouloir faire du mal aux autres ou à vouloir s'en débarrasser de manière brutale. Et Jonas, moi j'apprécie les personnages bibliques parce que c'est des personnages authentiques. J'apprends plus, ou autant je dirais, de leurs erreurs que de leurs succès. Et Jonas, c'est quelqu'un en qui je peux complètement me retrouver. Mais l'histoire, elle finit bien pour les gens de Ninive et pour lui. Bien, dans Jean, au chapitre 16, dans l'évangile de Jean, Jésus nous dit, Qu'est-ce qui... Posons-nous la question deux secondes. Qu'est-ce qui fait que Jésus a eu l'impact qu'il a eu? Les miracles. Bon, certainement. Certainement. Je veux dire, si demain, il y avait à Nice, pas dans l'église, dans la rue, un homme, un aveugle qui recouvrait la vue, ou quelqu'un qui arrivait avec une prothèse en carbone à la place de la jambe et dont la jambe se mettait à repousser, je pense que Nice Matin se saisirait du dossier. Et que très rapidement, on aurait un mouvement de foule. Donc les miracles, absolument. Mais pour Zachée, Jésus n'a fait aucun miracle. Donc ça doit forcément être quelque chose qu'il disait, qui émanait de lui, qui a changé la façon de penser de cet homme. D'accord ? On sait qu'à l'époque de Jésus, Jésus a dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. » Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de Jésus, toute l'œuvre du Saint-Esprit, hormis s'il l'a déléguée à certains disciples, résidait dans sa personne corporelle. Or Jésus, hormis cas de figure très inhabituel, ne pouvait être qu'à un endroit à un instant T. Il avait des limites humaines. Mais il a dit « Si je m'en vais, le Saint-Esprit viendra dans vous, mes disciples. Et c'est avantageux pour vous. » C'est-à-dire que l'œuvre qui était faite par le Saint-Esprit à travers la personne de Jésus pendant qu'il était sur terre, aujourd'hui, elle est faite par le même Saint-Esprit multiplié par un milliard. Et quand, restez dans Jean, je vous lis simplement dans Luc, quand Jésus lit la prophétie d'Ésaïe sur son propre ministère au chapitre 4, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance. » Et très honnêtement, quand je repense à ces scènes que j'ai vues à la télévision, je me dis, mais effectivement, ces gens-là sont dans ces catégories-là. Pauvre, cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Et dans Jean, au chapitre 16, donc, au verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, c'est intéressant que le Saint-Esprit soit appelé le Consolateur. » Parce qu'on est dans un monde qui a besoin de consolation. Mais ce n'est pas la consolation avec une tape sur l'épaule. C'est celui qui va guérir le cœur brisé en lui faisant voir à cet aveugle les choses qu'il n'avait pas vues, en le délivrant peut-être des choses qui le tiennent prisonnier. Tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ensuite, il dit au verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Les gens ont besoin, ces gens, nous aussi d'ailleurs, nous avons tous besoin de voir la vérité. Il y a encore des domaines dans ma vie où je sais que je ne vois pas la vérité. Je suis encore conditionné par ce que j'ai vécu, ou conditionné par ma façon de penser, conditionné par mon quotidien, par la culture dans laquelle je vis, l'éducation que j'ai reçue, etc. Et j'ai besoin que l'Esprit de vérité me libère de ces acquis pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont vraiment et pas telles qu'on me les a transmises, je dirais. Et ça peut être les parents, ça peut être l'école, ça peut être l'expérience, ça peut être les amis, ça peut être tout ce que vous voulez. La culture, les livres que vous avez lus, etc. Ou les films que vous avez vus. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Une des plus grandes vérités que le monde a besoin de connaître, c'est que Dieu est amour. On vit dans une société post tout ce que vous voulez d'ailleurs, hein, post-genre, post-chrétienne, post-moderne, post-restante, tout ça. Qui ne sait pas que Dieu est amour. Et donc, ils ne veulent pas de contraintes, comme ils ne veulent pas de punitions, comme ils ne veulent pas d'engagement, comme ils ne veulent pas d'obligations, ça ne les intéresse pas. Mais la plus grande vérité, c'est que Dieu est amour. Et c'est ça qui irradiait, je dirais, que Jésus irradiait. C'est que, oui, le miracle, mais le miracle n'est qu'une manifestation de l'amour de Dieu. Pas d'amour de Dieu, pas de miracle. Si tu veux voir des guérisons, pour le spectaculaire, pour la gloriole, pour en retirer une quelconque... Il y a, le pasteur Friedrich Bonhoeffer, je vous encourage à lire sa bio, c'est assez intéressant, c'était un pasteur allemand qui a vécu à l'époque du nazisme. Il a une expression qui m'a marqué dans sa biographie, il dit, à un moment donné, il parlait un petit peu du succès grandissant qu'il rencontrait au niveau des étudiants notamment, et il disait dans son journal, où il est très honnête, il dit « Je ne suis pas certain que dans ma joie de voir l'œuvre prospérer, il n'y ait pas une graine de ténèbres. » Il voulait dire par là quelque chose qui n'est pas clair à l'intérieur de moi. Peut-être que j'aime ce succès que je suis en train de rencontrer. Donc pas d'amour de Dieu, pas de miracle. Mais ça irradiait de Jésus. Et ça changeait carrément la façon de penser des gens. En une discussion, je ne sais pas si ça a duré une journée, une soirée, une nuit, peu importe, mais quand Jésus a franchi le pas de sa porte, Zachée a dit « J'ai pris une décision ». Et s'il a pris cette décision, c'est que son cœur avait changé. Parce que vous comprenez bien qu'il ne va pas distribuer la moitié de ses biens aux pauvres et rendre le quadruple à ceux qui l'avaient escroqué pour refaire la même une semaine plus tard. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, cette chose-là, cette prise de conscience, je dirais, que le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Jésus, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit d'amour, c'est l'Esprit de consolation. C'est ça dont notre monde a besoin. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Mais, en revanche, la Bible est claire. Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Et il va tout faire pour amener le pécheur à changer de façon de penser. Comment ? À coup de bambou ? Non. En lui donnant la vérité. Parce que la Bible nous dit que c'est la vérité qui rend libre. Et quand je vois des gens qui sont esclaves ou enchaînés de quoi que ce soit, de leur argent, de leur train de vie, de leur style de vie, de leur déviance, de tout ce que vous voulez, c'est qu'ils ne sont pas libres. Donc ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la vérité. Bien, quelle est la solution ? D'abord, continuer à méditer tout ça pour changer. Et puis deuxièmement, vous savez, quand je vois ce genre de choses et que vous avez le plus haut degré de l'État qui ouvre la porte à ces choses-là, je me dis, mais c'est foutu. À quelle porte tu veux aller taper pour corriger ça ? Hier, au camp des mines, c'était la même chose. Il disait, il y a trois phases. La première phase, c'est là par rapport à un génocide. Ils ont étudié trois génocides parce que ce camp n'est pas que par rapport à la Shoah. Ce camp est par rapport aux trois génocides et à l'étude des trois génocides que le XXe siècle a connus, génocide arménien, dans les années 1915, la Shoah pendant la Deuxième Guerre mondiale et le Rwanda dans les années 90. Il y a eu Digan au milieu aussi. Les trois génocides. Et ces trois génocides-là, ils disent, mais c'est exactement le même schéma qui se répète sur trois continents différents, Asie, Europe, Afrique, avec des gens qui ne se connaissent pas, et c'est la même chose. Ça commence par une phase de banalisation, de la discrimination, des préjugés, des stéréotypes, etc. Puis, progressivement, quand il y a une crise sociale, économique ou autre qui survient, ceux qui se réglaient de soi-même, on parlait des uns, des autres, ah oui, telle nationalité, telle ethnie, telle origine, bon voilà, il y a tous les stéréotypes qui courent, très bien, sauf que, enfin très bien, c'est pas bien, mais ça se règle de soi-même, sauf que quand il y a une crise sociale, ça se règle plus. Et à ce moment-là, il y a une bascule qui se fait vers l'institutionnalisation. C'est-à-dire, c'est le gouvernement qui tombe dans ce truc-là, avec des lois qui sont votées, etc., etc. Et ensuite, on bascule les agressions physiques, puis les assassinats, puis les génocides. Et donc, ce qui se passe, c'est que je me dis, mais quelle est la solution ? Je garde encore espoir dans un regain économique, je garde encore espoir dans un homme ou une femme politique qui, à un moment donné, va dire les choses telles qu'elles sont. Mais aujourd'hui, si vous déviez de 30 centimètres du discours, de la bien-pensance, etc., vous êtes automatiquement un facho d'extrême droite. Parce que ça, c'est la tarte à la crème pour vous couper le micro. Oui, mais toi, t'es extrême droite, t'es fasciste. Et là, t'as plus droit à la parole. Avec des absurdités, comme juifs dont il y a une partie de la famille qui a péri dans la Shoah, dont on dit, mais vous, aujourd'hui, vous êtes des fachos et des gens d'extrême droite. Bon, peu importe. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ma réflexion est de dire, quand on a l'impression que les ténèbres sont en train de galoper sur la terre, on se dit, mais Seigneur, où est là ? Quelle est la solution ? Et je vous dis spontanément, ma solution, ça a été, reviens et remets-toi à zéro. Et le Seigneur dit non. La solution, c'est que les gens changent de cœur. Un par un. Et c'est pour ça qu'un pasteur ne peut pas tout faire. Il n'a jamais été prévu dans la pensée de Dieu, que ça soit un pasteur ou un évangéliste ou un prêtre ou un ce que vous voulez, des sœurs, ou qui fassent tout le boulot. C'est que chaque personne qui a Jésus en elle a le Saint-Esprit. Et chaque personne qui a le Saint-Esprit, eh bien, est once pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc. Un par un par un. Mais moi, je ne peux pas aller parler à ton voisin. Et toi, tu ne peux pas venir parler à mon collègue de travail. Ou dans la famille. Alors, c'est vrai que parfois, on sème. Oui, c'est juste, il y avait une illustration hier sur un mur. Vous aviez, c'était une caricature, vous aviez un groupe de personnes, ça terminait, l'expo se terminait comme ça. Vous aviez un groupe de personnes, et il y avait une grosse bulle au-dessus d'elle, parce que tout le monde disait la même chose qui était dans la bulle, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse à moi tout seul? Et ils étaient, genre, 5000. Un à un à un à un à un. La solution. Alors, j'avais cette formule qui m'est venue, après j'ai cherché, donc je vais vous la dire et je vais la mettre un bémol. C'est-à-dire, la solution, c'est la christianisation de notre société. La re-christianisation de notre société. Sauf que sur Wikipédia, source ô combien fiable, il nous est dit, attention au mot christianisation, parce que la christianisation se fait de deux façons, de manière douce et paisible et pacifique par l'évangélisation, et de manière coercitive par les croisades. Donc christianisation, c'est un mot auquel il faut faire gaffe. Le problème, c'est que si je dis la solution, c'est l'évangélisation, tout bon chrétien sait que l'évangélisation, soit c'est j'envoie des missionnaires à l'autre bout de la planète, et peu importe ce qui se passe dans ma ville, ou je vais distribuer des tracts sur la promenade des Anglais. Si je vous dis, on va faire de l'évangélisation, tout de suite, en tout cas moi c'est ce qui me vient, c'est j'ai piscine ce jour-là. Je n'ai pas envie d'aller distribuer des tracts sur la promenade des Anglais. Sauf que appelez-la comme vous voulez, christianisation, évangélisation, témoignage. La solution, c'est que les gens connaissent la vérité. C'est Jésus-Christ qui révèle Dieu tel qu'il est. Il nous a dit, à la fin du premier chapitre de l'évangile de Jean, la loi est venue par Moïse, mais la grâce... Il n'est pas dit la grâce est venue par Jésus-Christ, il dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce qui veut dire que la loi n'était pas la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et ça, c'est ça qui change les cœurs des gens. Donc voilà, je veux vous encourager à peut-être considérer votre quotidien et votre vie un peu différemment maintenant. Effectivement, le monde est en train de bouger, il est demandé. Et un des autres thèmes du camp des mille hier, c'était la passivité. Il disait, quand Hitler est arrivé au pouvoir, il est arrivé avec 33% des voix. Ce qui veut donc dire qu'il y avait 67% des gens qui étaient contre lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Un peu de choses près. Et c'est la passivité qui fait que rien ne se passe. Et en tant que chrétien, surtout dans les églises évangéliques, où je prêche aussi la générosité de Dieu, la bonté de Dieu, la prospérité à tous égards, Dieu veut que nous prospérions, il veut le meilleur pour nous. Mais bon sang, le message ne se résume pas à ça. À moi, à ma voiture, à ma maison, à mes enfants, ils sont en bonne santé, ben gloire à Dieu. Et puis ça s'arrête là. Pourquoi on est sur Terre? Pourquoi on est sur Terre? Si c'est pour avoir développé une relation avec Dieu, je préfère aller au ciel. J'aurais plus aucune entrave à ma relation avec Dieu. Dans Thessaloniciens, il nous a dit, qu'est-ce qui retient l'esprit de l'Antichrist, qui est déjà à l'œuvre? Vous savez ce qui le retient. Et tous les théologiens disent, c'est la présence de l'Église sur Terre qui retient l'esprit de l'Antichrist. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et moi, ben, je me prêche ça à moi-même. En disant, Marc, il faut que tu fasses quelque chose. Ça fait 12 ans que tu es dans ton cabinet. Combien de fois as-tu parlé du Seigneur aux gens qui t'entourent? Oui, ils savent que tu es pasteur, mais c'est pas de ça dont je parle. Combien de fois t'as pris un café en tête à tête avec quelqu'un pour lui parler de Jésus? Les voisins. Un jour ou l'autre, on va déménager. Je vais changer de maison, je vais changer d'appart. D'accord? Est-ce que mes voisins auront entendu parler? Non, mais ils savent que je vais aller. Mais on s'en fout. Qu'est-ce que tu veux que ça leur fasse? Et l'autre, ils savent qu'il va au golf. Ça ne change rien. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change ? Zachée était un homme qui avait de l'influence. Imaginez un peu l'impact que ça a eu sur Jéricho. Vous êtes avec moi ? Imaginez l'impact que ça a eu sur Jéricho. Que cet homme-là change complètement de cœur et de façon de penser. Donc je veux vraiment vous encourager. Il faut qu'il y ait plus de chrétiens. Il faut qu'il y ait plus d'églises. Il faut qu'il y ait plus de pasteurs. Il faut qu'il y ait plus de Bible. Je lisais ce matin, Victor Hugo, il a dit des choses sur la Bible. Très intéressantes. Il a fait un poème d'abord sur comment la Bible a été un livre extraordinaire pour lui en tant qu'enfant. Et ensuite, il a écrit un livre qui s'appelle Claude Gueux. Je ne sais pas si ils sont plus connus, mais la conclusion, ça raconte un peu la misère humaine, si vous voulez, et comment un type qui a volé pour nourrir sa famille s'est retrouvé avec 5 ans de prison. Et en prison, c'était tellement horrible qu'il en est venu à assassiner le directeur de la prison. Et on finira par lui couper la tête. Et Hugo ne se contente pas de raconter une histoire. C'est un manifeste. Et il interpelle les pouvoirs publics de son époque en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait ? Regardez autour de vous, regardez l'état du monde dans lequel vous vivez, du pays que vous dirigez. » Et alors on peut transposer ça 150 ans plus tard, c'est exactement la même chose. Quelle est sa conclusion ? Il dit « Il y a deux choses, si vous voulez que ça change. » L'éducation et la Bible. Il faut donner une Bible, je ne sais plus quelle est la formule, mais une Bible dans chaque cabane, une Bible dans chaque chaumière. Il dit parce que vous allez donner de l'espoir aux gens. Et si vous remplissez la tête de savoir, si vous donnez l'espoir dans le cœur des gens, vous n'aurez plus besoin de couper les têtes. Et c'est exactement ça. 150 ans plus tard, on en est au même endroit. Il faut impérativement qu'on propage l'évangile, qu'on parle de Jésus, qu'on prie pour les gens. Et s'il n'est pas guéri ? S'il n'est pas guéri, il n'est pas guéri. Et s'il est guéri d'abord ? Première question. Et puis deuxièmement, moi je ne suis pas Dieu, ce n'est pas moi qui guéris les gens. Moi il m'a demandé de prier pour les malades. Donc je vais imposer les mains aux malades. Vous savez, le bien que ça peut faire à quelqu'un, même s'il ne voit pas sa guérison instantanément, que quelqu'un s'intéresse à lui et prie pour lui, comme ça nous est arrivé au magasin de bébés qui est juste à côté de la maison de Léa, à côté de l'église du vœu, on était acheté un paquet de couches. Et je crois que la vendeuse, je vous l'ai déjà raconté, a un psoriasis sur le bras. Et ça a été l'occasion d'entamer une discussion avec elle. Mais elle pleurait, la femme. Est-ce qu'elle a été guérie sur le psoriasis ? Non. Je l'ai revue il y a 15 jours. Et alors ? Il dit, c'est toujours là. Je dis, ok. Mais on a pu parler, on a pu prier pour elle, s'intéresser à elle. C'est un bon début. Il faut qu'on bouge les choses, hein, les amis. Il faut qu'on bouge les choses. On ne peut pas laisser passer une journée. Alors, ça nécessite de se lever peut-être plus tôt, ça nécessite de prier, de se mettre devant le Seigneur. « Seigneur, je veux que tu me prépares à la journée qui est devant moi. Oui, je vais aller travailler dans une entreprise. » Mais ce n'est pas le but final. Le but final, ce n'est pas le chèque à la fin du mois. Dieu a mille et une manières de pourvoir à tes besoins. On le voit dans la Bible. C'est un canal par lequel. Mais il t'a placé dans cette entreprise-là, ou dans cette famille-là, dans ce quartier-là. Donc voilà, je veux vous encourager à ça, le cœur humain. Ne jugeons pas sur les apparences. Zachée, il était prêt, il était mûr. Et comme tout fruit mûr, bah, il est tombé de l'arbre. On va prier. Père, nous te rendons grâce pour la vérité qui nous a franchis. Cette vérité, elle nous rend libres. Nous t'aimons tellement. Et nous voulons mieux être remplis encore de ton amour pour pouvoir aimer les autres. Aller leur parler de ton amour. Pas de nous, de ton amour. Il faut que les gens aient cette relation rétablie avec toi, Seigneur. Il faut que leur cœur change, il faut que tu puisses te manifester dans leur vie. Donne-nous, Seigneur, de saisir les opportunités. D'abord de les voir, et ensuite de les saisir. Donne-nous cet état d'esprit, Père, de dire « Je me jette à l'eau. Allez, j'arrête de réfléchir, je me lance. Peu importe ce qui se passera. » Saint-Esprit, merci parce que tu es avec nous. Tu es surnaturel. Et mon Dieu, je te remercie par avance. Parce que voisin par voisin, quartier par quartier, entreprise par entreprise, Seigneur. Les gens connaissent ta bonté, ton amour, et ça produit du résultat dans leur vie, et ça produit du résultat dans celle de leur entourage. Seigneur, il faut que l'Église se réveille, il faut qu'elle se relève les manches et qu'elle y aille. Mais nous ne sommes pas seuls, parce que tu nous as donné le Saint-Esprit, Jésus. C'est comme si tu étais physiquement avec nous et en nous. Je te remercie par avance pour les témoignages. Je te remercie par avance pour les gens qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont délivrés, les aveugles qui recouvrent la vue. Merci, mon Dieu, que ça aille vite. Vite, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ouais, mais... Attends, on peut... parle là-dedans parce qu'en plus, ça enregistre.
Je finalise en disant il faut parler de Jésus et annoncer l'Évangile, mais je trouve que dans ton message, justement, tu insistes sur le fait que avant de parler, il faut démontrer l'amour. C'est ça, c'est ton message, il est là-dessus.
Exact.
Parce que tu peux parler, tu peux avoir un super message. Il y a même des prédicateurs qui sont venus, ils avaient des super messages hyper importants. Mais en fait, il n'y a rien qui est passé. Parce qu'en fait, ils n'aimaient pas les gens.
C'est vrai.
Et ils étaient très distants. Donc, en fait, tout ce que les gens ont retenu, c'est son manque d'amour. Et son manque d'intérêt pour les autres. Et en fait, cette personne-là, elle est revenue un an après. Et elle nous a dit que le Seigneur lui avait parlé sur justement ça. Et qu'elle avait changé les choses dans son comportement. Et qu'elle avait appris à aimer les gens. Et du coup, là, son même message, en fait, je veux dire, a impacté le cœur des gens. Et donc, dans nos vies, c'est pareil.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors après, à vous de réfléchir, de vous mettre devant le Seigneur, je dirais, pour avoir des changements de paradigme, comme on dit, des changements de schéma. C'est-à-dire, est-ce qu'au cours de ma journée, il y a quelque chose que je peux faire? Est-ce que la boulangère chez qui je prends mon pain, je peux lui dire quelque chose? Est-ce qu'il faut intégrer ça dans votre quotidien? C'est bien de se voir à l'autre bout de la planète, dans les îles, en train de faire une croisade. Peut-être que c'est ce à quoi Dieu vous appelle. Hein. Une croisade, en bon sens du terme, un rassemblement évangélique ou missionnaire. C'est bien. Mais il y a des choses qu'on peut faire tout de suite. Vous avez remarqué que c'est souvent... Viens. Ça irradie souvent. Hein. Jésus a dit ça commence à Jérusalem et puis ensuite ça. Donc il faut commencer là où on est.
Moi aussi, j'ai un témoignage parce qu'on était à un endroit le week-end dernier. Et en fait, on rentre dans cette galerie de peinture et on n'avait pas l'intention de parler de Jésus. Et puis le gars, il commence à nous parler, qu'il rencontre des stars, blablabli, blablabla. Et il dit, c'est quelqu'un d'intéressant, qui inspire, c'est super. Et puis intérieurement, je me dis, on va partir comme ça, on doit lui parler de Jésus. Et pourtant, j'avais pas envie, j'avais juste envie de passer un moment tranquille. Quoi, j'avais pas envie. Et je me rappelais que, occasion favorable ou non, vas-y, c'est les derniers temps et on se concentre pas sur les problèmes. On pense aux gens qui sont devant, qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Et puis il disait, j'ai vu telle star. Et puis, là, il faut que je l'introduise. Je me suis forcée, on s'est forcé.
Et
Jésus, vous l'avez vu la star. Et c'était, il va me prendre pour une Adeline. C'est pas grave, on est pris pour des fous, c'est pas grave. Il a dit, et puis on est rentré dans la conversation et on a commencé à parler de notre témoignage tout simplement. Et il a dit oui, je commence à croire, mais il croyait pour d'autres choses, mais c'est pas grave, il a entendu le nom de Jésus. Et c'est ce qu'on doit faire,
exact.
Occasion favorable ou pas.
Exact.
Amen. Amen.
Pour terminer, il y a des gens, alors je ne sais pas si l'enregistrement va bien fonctionner ou pas aujourd'hui, espérons-le, mais il y a peut-être des gens qui écoutent ce message, ou vous qui êtes ici, je ne connais pas forcément tout le monde, qui entendent, peut-être pour la première fois de leur vie, que Dieu est bon, que Jésus est celui qui a été envoyé par Dieu pour manifester cette bonté, cet amour, et peut-être que c'est une nouveauté, soit parce que vous n'avez jamais entendu parler de Dieu, soit parce que vous n'avez jamais entendu parler de lui de cette façon-là. Et pourtant, ça transparaît à travers toute la Bible, notamment le Nouveau Testament. Et je voudrais vous encourager, si tout le monde veut bien fermer les yeux, à vous positionner par rapport à cette chose que vous venez d'entendre, à savoir que Dieu vous aime, et à savoir qu'il ne veut pas vous laisser seul. Vous avez la possibilité de recevoir, de l'inviter dans votre vie. La Bible nous dit que lorsqu'on fait cette démarche, que l'on croit que Jésus est l'envoyé de Dieu, que l'on croit que ce sacrifice sur la croix, il a été fait pour payer pour notre punition à notre place, et puis que Jésus est ressuscité aujourd'hui. Et que parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est au ciel, eh bien, il est vivant, et en tant que tel, eh bien, il peut agir dans notre vie. Il peut venir envoyer son esprit dans notre cœur, Vraiment, on n'est plus seul quand on a Jésus dans sa vie. Et non seulement on n'est plus seul sur cette terre, mais on n'est plus seul pour l'éternité. Et je voudrais vous encourager à faire cette démarche, d'inviter, de vous tourner vers un Dieu qui vous aime. Si dans cette pièce, ou vous qui écoutez le message sur Internet, vous n'avez jamais fait cette démarche et que vous souhaiteriez la faire, eh bien pour ceux qui sont ici, vous pouvez lever la main rapidement et je prierai avec vous. La prière, c'est simplement la communication avec Dieu. Peut-être que vous dites, mais moi, j'ai une culture chrétienne, mais aujourd'hui, c'est plus une théologie ou une philosophie de vie. Alors, vous avez besoin de rencontrer personnellement Jésus-Christ. Vous avez besoin qu'il vienne dans votre cœur, pas seulement dans votre tête. Et peut-être sur Internet, c'est le cas aussi. À ce moment-là, eh bien, je vous encourage à faire cette prière. Père, mon Dieu, je crois que... Oui, ce que j'ai entendu est la vérité. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es bon. Je crois que tu m'aimes, même si jusqu'à présent, je ne l'avais pas réalisé. Et je crois également dans ce Jésus que tu as envoyé, qui est ton Fils, qui a payé pour mes péchés, toutes mes fautes, Seigneur. Tu n'as pas voulu me les faire subir, mais au contraire, il a accepté de les prendre en lui, sur lui. Et aujourd'hui, eh bien, je crois également qu'il est vivant, ressuscité, et je veux faire de lui mon Seigneur, c'est-à-dire mon maître, mais c'est un bon maître. C'est un ami intime. C'est un frère. Et Seigneur, je veux t'inviter à venir dans ma vie. Je déclare que Jésus est le Fils de Dieu. Et je crois qu'il vient en moi maintenant. Et il le fait. Il le fait. La Bible nous dit que quand on fait ce genre de prière, quand on donne cette invitation à Dieu, eh bien, il vient en nous et il n'en part plus jamais. Ce qui veut dire que le jour où nous quittons cette planète, eh bien, nous sommes avec Dieu pour l'éternité. Et nous n'avons pas à craindre ce qu'il y a après, parce que nous savons ce qu'il y a après, c'est l'éternité avec lui. Dès à présent et pour l'éternité. Merci mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous rappelle que vous avez la librairie, vous avez le café qui sont à votre disposition. Et dimanche prochain, bien écoutez, même heure, même lieu. Pour ceux qui viennent à Starting Block le matin, rendez-vous à 9h45. Et pour ceux qui ont des groupes cette semaine, groupe de prière, messieurs, nous avons rendez-vous chez moi. Vous en souvenez peut-être, le groupe des hommes, jeudi soir. Ceux qui ne se sont pas inscrits, venez me voir. À la semaine prochaine.